Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Pour les traditionalistes, ceux qui respectent encore le calendrier julien, Noël était fêté lundi dernier et la nouvelle année commencera après-demain. Ils sont quelque 300 millions de chrétiens dans le monde à obéir au rite orthodoxe, appartenant à cette église née au IVe siècle de notre ère, née du divorce entre Rome et Byzance, un divorce définitivement scellé au XIe siècle lors du schisme entre Église d'Orient et Église d'Occident. Depuis, le monde orthodoxe n'a cessé de subir toutes sortes de convulsions liées tantôt à des querelles théologiques, tantôt, et le plus souvent d'ailleurs, aux mutations politiques des empires et des États contemporains. Au sud-est de la Méditerranée, de la Turquie à l'Égypte, les chrétiens d'Orient ont subi dans la douleur assauts et persécutions au point d'être aujourd'hui menacés de disparition au Moyen-Orient. En Europe, à l'est d'une ligne de fracture qui va de la Baltique à l'Adriatique, l'orthodoxie imprègne un monde slave longtemps dominé par Moscou. Et c'est en Europe ces jours-ci qu'intervient une déflagration ébranlante en profondeur les rapports de force politique et identitaire au cœur du continent. L'Église de Kiev met fin à la tutelle historique de Moscou pour se rapprocher du patriarcat œcuménique de Constantinople, un camouflet pour l'Église russe et pour son mentor, Vladimir Poutine, une victoire pour le président ukrainien Porochenko à quelques semaines de prochaines élections présidentielles en Ukraine. Quelle part donc accorder au spirituel et à la politique dans cette affaire? Quelles conséquences pour l'Ukraine, alors qu'une guerre larvée continue de ronger le Donbass à l'est du pays, quel impact sur d'autres pays de religion orthodoxe, à commencer par la Grèce, où le Premier ministre vient d'échouer à rompre les liens entre l'Église et l'État, jusqu'à quel point, dans cette partie de l'Europe, la filiation religieuse continue-t-elle de participer de l'identité nationale? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Jean-François Colossi. Vous êtes historien des religions, président de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Avec nous aussi Georges Prevelakis, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la géopolitique des Balkans et des diasporas. Céline Maranger, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par téléphone, et je l'en remercie, notre ami Constantin Sigoff, qui dirige le Centre européen de l'Université de Kiev et qui dirige aussi les éditions L'Esprit et la Lettre à Kiev, donc, et Jean Radvani, professeur des universités à l'INALCO. Jean-François Colossimo, dimanche dernier, à Istanbul, disons Istanbul plutôt que Constantinople, le patriarche œcuménique, qui est le primus inter pares, celui qui est censé donc avoir autorité sur les différentes églises orthodoxes, a officiellement consacré la rupture entre l'église orthodoxe de Kiev et le patriarcat de Moscou, auquel cette église était rattachée depuis plus de 4 siècles. En quoi est-ce que c'est un événement majeur pour le monde orthodoxe?
C'est un événement majeur pour le monde orthodoxe parce que, d'une manière très claire, l'église orthodoxe vit une forme de primauté qui est tout à fait différente de celle qu'on connaît dans le catholicisme. Bartholomée n'est pas le pape des orthodoxes.
Donc en même Bartholomée temps, qui est le patriarche de Constantinople.
Le patriarche de Constantinople n'est pas le pape des orthodoxes. En même temps, il y a bien un problème d'organisation au sein de l'église orthodoxe qui est composée d'églises qui très souvent effectivement ont un caractère national, mais pas toujours, parfois elles ont un caractère supranational. Et donc, ce qui se passe là, tout simplement, c'est que ce territoire d'Ukraine, qui est à la fois un territoire qui a été évangélisé par Constantinople, c'est-à-dire par les prédécesseurs de Bartholomée, n'est-ce pas ? Et qui en même temps est un territoire qui a vécu ensuite sous l'hégémonie de Moscou, eh bien Bartholomée revient et dit que au titre de la mission qu'a exercé Constantinople, eh bien il donne ce jour à l'Ukraine une église autocéphale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une église orthodoxe de plus au sein de l'église orthodoxe, elle sera ukrainienne, elle sera séparée de Moscou. C'est considérable. Pourquoi ? Parce que le patriarcat de Moscou, c'est-à-dire l'église russe, l'église de toutes les Russies, eh bien, elle constitue à elle seule à peu près la moitié du monde orthodoxe, en nombre de fidèles, en surtout en ressources financières, diplomatiques, intellectuelles.
Moscou surnommée la troisième Rome.
La troisième Rome, comme Constantinople est la seconde Rome, hein, puisque alors que Constantin s'était déplacé, l'empereur Constantin s'était déplacé.
Oui, alors j'espère que dans mon introduction, je ne me suis pas trompé dans les siècles.
Non. Ce qui est important.
Parce que c'est sidérant. Ça nous replonge quand même dans une histoire longue.
Bien sûr. Ce qui est important de noter, c'est que l'Ukraine, c'est la moitié du patriarcat de Moscou qui se considère
en nombre,
la moitié du monde orthodoxe.
En nombre de fidèles.
En ressources. Encore une fois,
en nombre de paroisses.
Pas en nombre de paroisses, mais en ressources de clergé.
Précise Céline Maranger.
Et en dynamisme surtout, puisque les Ukrainiens présentent aussi un profil qui est beaucoup plus ouvert, évidemment, vers l'Europe occidentale, et je dirais une forme d'orthodoxie plus libérale et plus moderne.
Mais l'Ukraine, qui est d'ailleurs, enfin le pays lui-même, qui est en quelque sorte coupé en deux.
Oui, parce que la ligne dont vous parliez, qui va des pays baltes, en fait, à la Croatie, c'est la ligne de partage entre les missions carolingienne, Charlemagne, les missions franques et les missions byzantines. Et ça a déterminé deux Europes. Deux Europes, l'une qui est latine, l'autre qui est grecque, l'une qui ensuite sera catholique, l'autre qui sera ensuite orthodoxe. Et cette ligne qui sépare les Serbes des Croates, qui sépare les Tchèques des Slovaques, qui sépare les Polonais des Biélorusses, eh bien elle zigzague à travers l'Ukraine, elle coupe ce pays aussi un peu en deux. Mais juste pour dire, pour finir, ce qui est important dans cette affaire, c'est que Bartholomée fait valoir des droits pour, de son point de vue, donner la pleine liberté religieuse à un peuple dont il considère qu'il a été injustement mis sous le joug d'une réalité qui lui est étrangère, et que surtout l'autre patriarche, Kirill, celui de Moscou, est tellement lié à la politique étrangère de Vladimir Poutine qu'il ne peut pas prétendre être à la fois le primat des Russes et le primat des Ukrainiens, de la même manière qu'il est aussi le primat des Biélorusses, etc. Donc, on est face, selon moi, j'ose le mot, face à un geste assez prophétique de la part de Bartholomée. On va ensuite en parler, c'est pas facile, c'est compliqué.
Prophétique et très politique.
Oui, c'est compliqué, il y a un arrière-fond politique. Mais il y a une idée quand même, c'est est-ce que l'orthodoxie, en ce début de 21e siècle, a encore les ressources spirituelles de clarifier son histoire et d'apporter justement un sens à sa profession de foi chrétienne qui soit libre des enjeux idéologiques et des enjeux géopolitiques ou pas. Voilà. Donc c'est un geste considérable dans ce sens-là. Mais ça aboutit à un schisme. Désormais, Moscou ne veut plus communier avec Constantinople et Moscou veut entraîner les autres églises orthodoxes, les Grecs, les Serbes, les Roumains, dans cette rupture. Donc c'est un phénomène majeur.
Allons précisément à Kiev, vous rejoindre Constantin Sigov. Comment est-ce que cet événement est perçu à Kiev ?
Écoutez, les catholiques et les protestants en Ukraine ont aussi regardé d'un œil tout à fait bienveillant l'apparition de l'église autocéphale locale d'Ukraine. Parce que, première chose, cette décision historique a mis la fin à une schisme qui a ravagé le pays depuis l'indépendance d'Ukraine, depuis 1991. En fait, la question de l'église indépendante autocéphale en Ukraine était de nouveau posée précisément après la fin de l'Union soviétique. Eh bien, une bonne partie des chrétiens, des évêques, des prêtres qui ont voulu cette église autocéphale, ils ont été déclarés, pour simplifier les choses, schismatiques, entre guillemets. Et donc, les millions d'Ukrainiens, pendant plus de 20 ans, étaient séparés sans pouvoir être en pleine communion et pleine échange, communication, pareil avec à l'échelle internationale. Eh bien, c'est fini. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'Ukraine, il n'y a plus de schismatique, c'est-à-dire la communion est véritablement rétablie, c'est-à-dire tous les baptêmes, tous les mariages à l'église, tous les sacrements sont reconnus pleinement pour tous les chrétiens qui habitent.
Mais Constantin, il reste, pardon, soi, je vous interromps, mais il reste une autre église, sinon deux, orthodoxes en Ukraine, qui ne reconnaissent pas l'autocéphalie proclamée par le patriarche Bartholomé. Donc c'est une situation quand même très très confuse dans un pays où l'on pensait quand même que l'Ukraine appliquait la séparation entre le politique et le religieux.
La situation n'est pas symétrique. On connaît très bien que le patriarche Bartholomé et tous les chrétiens qui appartiennent à cette église locale ouvrent les portes et tous les chrétiens, y compris donc du patriarcat de Moscou, sont accueillis pour les liturgies, pour la communion, etc. C'est-à-dire il n'y a pas de symétrie, c'est-à-dire il n'existe pas de refus des deux côtés. C'est le premier constat quand même important. Et par ailleurs, il est très important que de toute manière, même malgré cette situation actuelle, il y a quand même une pleine reconnaissance du statut des chrétiens, du baptême au moins. C'est-à-dire que au moins, on a passé d'un stade d'une non-reconnaissance complète à une idée que voilà, tous les citoyens d'Ukraine aujourd'hui, pour ainsi dire, sont dans une situation légale et légitime. D'ailleurs, tous les chrétiens sont les citoyens avec les droits de l'homme et des citoyens avec les dignités absolument analogues, complètement. Donc, il n'y a pas de citoyens du premier et du second rang, pour ainsi dire.
Constantin Sigov, on sait aussi qu'il va y avoir des élections présidentielles en Ukraine en mars, que le président actuel Porochenko n'est pas au mieux de sa forme dans les sondages, il est extrêmement impopulaire, il est talonné par Madame Yulia Tymoshenko, dont on s'en souvient avec ses tresses blondes dont les méchantes langues ont dit qu'elles étaient fausses, mais néanmoins une femme qui avait fait fortune d'ailleurs dans le gaz dans des temps plus anciens. Mais plus sérieusement, il s'agit bien manifestement pour le président Porochenko d'une victoire politique à un moment crucial pour lui.
C'est vrai, 3 mois nous séparent des élections présidentielles au mois de mars, mais je pense qu'il est quand même très important de savoir que l'enjeu, évidemment, dépasse de loin pour l'avenir et pour le passé et pour le présent la situation, la constellation de cette courte période. Et à mon avis, pourquoi il est important peut-être aussi en France de savoir que, grosso modo, après la révolution bolchevique, déjà la question de l'église autocéphale ukrainienne était posée. C'est-à-dire en 1919 et 18, on était là. Et donc, un siècle plus tard, finalement, on a abouti à avoir un résultat positif, féconde. Évidemment, il est question du dialogue ultérieur qui doit quand même minimiser la situation dramatique actuelle.
Constantin, restez avec nous, si vous le voulez bien, quelques minutes encore, parce que je voudrais demander à Céline Maranger, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et spécialiste du monde slave. Il y a donc d'autres églises orthodoxes en Ukraine et qui sont-elles majoritaires ou non par rapport à cette église autocéphale qui vient d'être proclamée ?
Alors, peut-être d'abord un mot, en fait, de la manière dont cette question est perçue à Moscou, parce que je pense
non,
que
non,
ça...
Non, je voudrais d'abord savoir...
Alors, en Ukraine, effectivement, il y avait avant la décision du patriarche Bartholomé prise en octobre 2018 de réintégrer ces deux églises dites schismatiques. Il y avait une église considérée comme canonique par l'ensemble de l'église orthodoxe, qui est l'église ukrainienne orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou. Cette église, elle compte plus de 12 000 paroisses en Ukraine, d'après des sources ukrainiennes officielles. Et cette église, elle n'est pas partie prenante du processus de l'autocéphalie ukrainienne. Elle a refusé de participer au concile de réunification. Le président Porochenko avait promis au patriarche Bartholomé qu'au moins 10 de ses évêques feraient défection, enfin disons, rejoindraient la nouvelle église. Ça n'a pas été le cas. Sur 90 évêques, il n'y a que 2 évêques qui ont choisi de rejoindre la nouvelle église, en tout cas pour le moment. Et l'un des deux a été désavoué en plus par l'Assemblée des clercs de son évêché.
Donc si cette nouvelle église serait minoritaire en quelque sorte.
Exactement. C'est-à-dire qu'en nombre, elle l'est.
En nombre.
Ce qui n'enlève rien au symbole, si vous voulez, à la force du symbole. Mais en nombre, elle rassemble 2 églises, l'église autocéphale ukrainienne qui a été fondée, comme le rappelait Constantin Sigov, au tout début des années 20 et qui comptait environ, il y a un an en tout cas, environ 1300-1400 paroisses, et l'église dite du patriarcat de Kiev qui, elle, a été fondée au moment de la dissolution de l'Union soviétique par Filaret. Filaret qui était un hiérarque
de l'église. Ils ont toujours des prénoms merveilleux, enfin, soit pour nous qui sommes ignares.
Et donc ce Filaret est un hiérarque de l'église orthodoxe, connu pour ses liens avec le KGB, qui convoitait le trône de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou, qui n'a pas qui a vraiment cru qu'il serait élu et qui finalement n'a pas été élu et qui, peu après, a fondé ce patriarcat de Kiev. Et donc lui, il a subi l'anathème en 1997 de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Et en fait, un des reproches qui est adressé par le patriarcat de Moscou, mais aussi par d'autres églises orthodoxes aujourd'hui à l'égard du patriarche Bartholomé de Constantinople, c'est d'avoir levé un anathème qu'il n'avait pas lui-même prononcé, ce qui est en contradiction avec les canons. Et ainsi, en fait, il réaffirme sa vision de la primauté
de Constantinople.
C'est-à-dire qu'il affirme,
mais ça,
en fait...
c'est une bagarre qui dure depuis au moins 15 siècles.
De très longue date, oui. Mais qui s'est quand même beaucoup exacerbée ces dernières années. Parce que Moscou a des ambitions toujours plus grandes et affirme, en fait, sa... ses ambitions, il se pose en rassembleur du monde orthodoxe.
Jean-François Colosimo.
Pour revenir sur ce que disait Céline, donc Bartholomé prend ces groupes dissidents qui sont très ukrainiens, qui sont très nationalistes, qui rejettent Moscou. Mais Moscou, malgré tout, a la plus grosse part du gâteau en Ukraine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et Bartholomé.
Et le gâteau, ça veut dire du foncier. Enfin, il y a aussi des questions financières.
Il y a,
dans
y a
tout
les
ça.
Monuments
et des,
historiques, etc.
Et des fidèles.
Et le nombre de fidèles, etc. Et Bartholomé fait le pari de créer une dynamique.
Voilà.
Et cette dynamique, elle échoue, il faut bien le dire, parce que des deux côtés, malgré tout, les pouvoirs politiques vont se mêler de tout cela. Et il est évident que d'un côté, les services secrets ukrainiens essaient de ramener des évêques par force à ce fameux conseil.
Il y a un reportage étonnant dans le New York Times où on voit qu'il y a des popes, y compris à l'ouest de l'Ukraine, où il y a davantage de catholiques, donc des popes orthodoxes qui sont interrogés par la police ou la police secrète, qui leur demandent s'ils sont véritablement des traîtres à la nation. Donc
ça doit être
assez difficile sur le terrain.
C'est difficile, mais soyons aussi parfaitement égalitaires. Il est évident aussi que parmi ces 90 évêques qui sont attachés à Moscou, et beaucoup d'entre
et
eux ont dû subir...
Et à la liturgie en slavon, je pense.
Certains d'entre eux sont de véritables grands russes, au sens où ils veulent être à la fois ukrainiens et russes, mais certains d'entre eux ont dû subir aussi quelques pressions du FSB pour ne pas se rendre au fameux concile. Donc la dynamique de Bartholomé qu'il a voulu créer... Pour l'instant, elle a échoué. Et pour finir, elle a d'autant plus échoué que Bartholomé voulait, en fait, comme primat de cette nouvelle église, un évêque qui venait de Moscou, le fameux Séraphin, je crois. Et en fait, Filaret, qui est un vieux grigou, et qui est véritablement un personnage politique à fond, a réussi à placer son second. Donc pour l'instant, c'est quand même pas une situation, la dynamique, elle est là symboliquement, comme le dit bien Céline, mais pour l'instant, elle marche pas très bien dans les faits, c'est ça qu'il faut se dire.
Alors précisément à Kiev, Constantin Sigov, est-ce que l'on craint, au niveau des fidèles, des affrontements, des déchirements, puis entre ces deux ou ces trois églises orthodoxes aujourd'hui?
Écoutez, je crois crois que la plupart des gens refusent l'idée même de l'intervention par la force. Et tout le monde répète systématiquement, de tous côtés, qu'il faut surtout éviter moindre ingérence, même symbolique, par la force. En revanche, évidemment, on redoute des provocations qui peuvent intervenir. Nous connaissons un certain nombre des provocations au niveau politique avec les journalistes, à commencer par la mort de Boris Nemtsov et de certains d'autres personnages à Kiev. Donc, les provocations sont possibles. En revanche, le climat n'est pas tendu dans ce sens qu'il n'y a pas des groupements de gens qui veulent absolument aller y prendre une église à côté. Surtout pas. Au contraire, on voudra essayer de promouvoir une possibilité de, par exemple, célébration parallèle dans les mêmes paroisses à 9h paroisse de l'église locale. Autocéphale, et à 11h, l'église est rattachée au Moscou. C'est-à-dire qu'il faut trouver des possibilités de cohabitation pacifique, paisible. En revanche, je voulais souligner qu'il n'est pas exact de dire que les gens, les clergés aussi, les laïcs, qui sont membres de l'église ukrainienne orthodoxe, entre parenthèses, rattachés au patriarcat de Moscou, qui n'ont pas participé dans la réunification. C'est vrai que deux métropolites ont participé dans le concile, et l'un parmi eux, Siméon, avait au second tour 28 voix.
Oui, alors là, vous allez nous perdre. Oui, oui, là, vous allez nous perdre. Parce que s'il faut compter les voix au sein du synode, non, bien sûr. Mais justement, Constantin Sigov, on se souvient qu'il y a eu un regain de tension entre Moscou et Kiev, c'était à la fin novembre, en mer d'Azov, quand trois bateaux ukrainiens ont été arraisonnés. Leurs équipages, j'imagine, sont toujours prisonniers, d'ailleurs. Depuis cette confrontation, le président Porochenko a voulu imposer une loi martiale. Je crois qu'il n'a eu le droit accordé par son parlement que pour un mois dans les régions frontalières. Est-ce que l'on craint, et ce sera ma dernière question pour vous, est-ce que on craint à Kiev un durcissement ou des représailles du Kremlin liées à ce schisme prononcé désormais entre l'une des églises orthodoxes ukrainiennes et le patriarcat de Moscou?
Vous savez, il est très difficile de calculer, parce que là on n'est pas du tout dans le calcul raisonnable. Mais par exemple, la réaction du Kremlin par rapport à la révolution de la dignité était totalement disproportionnée et aberrante, mais l'annexion de la Crimée est là. C'est-à-dire, personne n'a redouté que de cette manière franglant les lois d'ordre international vont être bafouées. Et malgré tout, effectivement, le fait que les gens étaient debout pendant plusieurs mois pour réclamer leur dignité, provoquer durcissement du régime autoritaire de Poutine. Donc les réactions redoutables sont possibles. En revanche, je ne pense pas que c'est uniquement à cause de la situation ecclésiale. Ça pourrait être pris comme prétexte. Mais évidemment, il y a d'autres raisons de cette logique néo-soviétique et néo-impériale qui cherchent en fait les prétextes, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Biélorussie et parfois dans les pays baltes.
Jean Radvani, vous enseignez au Langso, vous co-dirigez le centre de recherche Europe-Asie. Vu de Moscou, que signifie ce moment, cette rupture sur le plan des églises? Est-ce qu'il y a un retentissement politique, selon vous, par rapport à cette crise ukrainienne qui dure maintenant depuis plusieurs années?
Oui, je crois que c'est un tournant important et qu'il y aura des répercussions, et c'est quelque chose qui est très marquant. Parce qu'on sait que Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 2000, a beaucoup utilisé ces instruments, divers instruments, dont l'aspect religieux, dont les différentes religions, présente sur le territoire russe, et pas seulement la religion orthodoxe, puisqu'il y a quand même une importante communauté musulmane, et qu'à diverses reprises, il a aussi utilisé, comme le faisaient les soviétiques, le fait qu'il y avait cette présence musulmane pour se rapprocher d'un certain nombre de pays qui l'intéressaient géopolitiquement. Mais évidemment, c'est l'Église orthodoxe qui est le principal acteur. Et pendant un certain nombre d'années, on a pu voir, au fond, une double politique, une politique du patriarcat de Moscou, une diplomatie active du patriarcat de Moscou, tous azimuts dans le monde orthodoxe, slave en particulier, et la politique de Vladimir Poutine. Un événement important qu'on n'a pas encore signalé, c'est que, par exemple, en 2007, le patriarcat de Moscou a obtenu un rapprochement très important avec ce qu'on appelait l'Église orthodoxe russe de l'étranger, qui avait été créée par les Russes émigrés blancs aux États-Unis et au Canada. Et en 2007, donc, c'était un vrai succès pour le patriarcat de Moscou, il y avait eu ce rapprochement qui entérinait, au fond, cette action conjointe, à l'époque c'était Alexis II et de Vladimir Poutine, pour se promouvoir comme effectivement l'idée de troisième Rome, c'est-à-dire le rassembleur de tous les orthodoxes du monde. Et la perspective, c'était l'organisation d'un grand synode où, avec Bartholomée, à l'époque il y avait des discussions en ce sens, il y aurait ce grand rapprochement, et les Russes évidemment considéraient que ce rapprochement devait leur être favorable et était sous leur... Or, depuis 2008, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un retournement de situation. Je crois que c'est intéressant parce que il n'y a pas que l'Ukraine qui est avec les mêmes problèmes d'autocéphalie par rapport au patriarcat de Moscou. Il y a aussi les régions de Géorgie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, et la Géorgie elle-même, la Géorgie est devenue autocéphale, et toute la question du territoire œcuménique du patriarcat de Moscou qui s'est rétréci. Et là, la décision de l'autocéphalie de l'Église ukrainienne, même si elle n'est pour l'instant pas majoritaire et aussi c'est compliqué, on va voir, ça va prendre du temps pour comprendre si effectivement c'est une décision qui va se matérialiser ou si elle est plutôt politique que réellement œcuménique. Mais je crois que c'est vraiment, ça montre à quel point la Russie, Moscou, et aussi bien Kirill que Vladimir Poutine, ont perdu la main sur un territoire qu'ils considéraient comme très important. Je rappelle que Vladimir Poutine a une ou deux occasions a rappelé que pour lui, l'Ukraine faisait partie, le peuple ukrainien faisait partie d'un grand peuple russe dans l'esprit qui était l'esprit des tsars à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le peuple russe tricéphale avec les Russes blancs de Biélorussie, les petits Russes d'Ukraine et les grands Russes de Russie. Donc je crois que ça matérialise, et pour la population russe, ça matérialise un échec. C'est-à-dire, jusqu'à récemment encore, on voyait des hommes politiques influents russes dire « la crise ukrainienne, elle est liée à une conjoncture, elle est liée à des élites ukrainiennes noyautées par les Occidentaux et en particulier les Américains ». Ça a été redit à propos de l'autocéphalie récente. On a dit « il y a des évêques américains qui sont allés voir Bartholomée, etc. » Enfin, il y a toute une, de ce point de vue-là, des arguments développés dans la presse russe en ce sens. Or, pour la population russe, donc, ça marque de façon vraiment nette la perte d'influence de la Russie sur un territoire qu'ils ont longtemps considéré comme le leur, le territoire ukrainien.
Georges Prevelakis, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la géopolitique des Balkans et des diasporas. Le patriarche de Moscou, donc qui s'appelle Cyril, avait rencontré le pape François il y a 2 ans, me semble-t-il, dans un endroit tout à fait surprenant, puisque c'était à La Havane, dans un salon de l'aéroport de La Havane. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'empêcher les ambitions du patriarche de Constantinople de réussir, si j'ai bien compris,
un
synode pour... Bartholomée voulait réunir en Crète... Ouais. Donc un synode réunissant toutes les sommités,
un concile, une réunion générale de tous les primats, de toutes les églises orthodoxes, comme il n'y avait pas eu depuis des siècles.
Oui, je dirais que plus généralement, le patriarche Bartholomée a fait preuve d'une très grande ouverture, d'un rapprochement. ce qui probablement inquiétait Moscou, et ils ont voulu montrer qu'eux aussi sont capables de faire des gestes d'ouverture. Mais je pense en effet que ces événements d'Ukraine, évidemment, pour le public français, toute notre discussion, qui pour nous est très importante, doit paraître assez compliquée.
Mais
assez
sûrement
complexe.
Pas pour les auditeurs fidèles d'Affaires étrangères sur France
pense,
Culture.
Je pense qu'il faut quand même voir les choses d'une manière plus générale sur le plan géopolitique, c'est-à-dire de se rendre compte que là, nous avons la confrontation de deux projets géopolitiques. L'un, Jean Radvani, je pense, l'a bien expliqué, c'est le projet impérial russe. La Russie a abandonné un peu l'utilisation de la religion pendant la période soviétique parce que l'idéologie communiste jouait ses rôles. Donc maintenant, on reprend les choses. Donc il y a un projet impérial. D'autre part, il y a un projet de construction statonationale. Et là, l'Ukraine est encore un cas parmi plusieurs. Ça a commencé avec la création de l'État grec, qui a été, je rappelle, le premier cas de séparation par rapport au patriarcat. C'est-à-dire les Grecs ont été les premiers à se séparer des Grecs.
Hein. Et donc ça, c'était en 1840,
dans les années 40, 1840.
Mais le prince bavarois qui s'appelait Othon, qui a été mis sur le trône de Grèce quand les Européens voulaient créer la Grèce, c'était le grand moment aussi du retour à l'Antique, le prince Othon a dû se convertir à la religion orthodoxe.
Oui. Mais
donc, c'est... comme quoi, ça faisait partie aussi d'un élément identitaire et de création.
Mais c'est la cuisine fondamentale de la création d'États-nations dans les Balkans. Étant donné que le nationalisme est un produit qui est importé de l'étranger, pour le légitimer, on a besoin de puiser sur un élément qui s'inscrit dans l'histoire des peuples. Donc la religion, l'orthodoxie, constitue un élément de stabilisation de l'État-nation et c'est pour ça qu'il est essentiel. Donc les Ukrainiens, maintenant, cherchent aussi à créer leur propre nationalisme. Ils ont besoin, eux aussi, du même élément.
D'ailleurs, le président Porochenko l'a carrément dit. Il a dit l'identité nationale passe par la souveraineté religieuse.
D'ailleurs, la même question se pose aussi à propos de Macédoniens.
C'est
qui crée des tensions entre le patriarcat et pas seulement la Grèce, mais aussi le patriarcat de la Serbie. Donc nous avons cette deuxième catégorie qui est la construction statonationnelle. Le patriarcat se trouve au milieu parce que le patriarcat est menacé de perte de son rôle par les ambitions de Moscou. Donc nous avons l'alliance du patriarcat œcuménique qui voit dans cette aspiration nationale ukrainienne, la possibilité de contrecarrer la pression qui est exercée sur lui par Moscou. Donc ça aussi, c'est un autre paradoxe. J'ai évoqué le premier paradoxe, les Grecs qui se séparent des Grecs. Le deuxième paradoxe, c'est que le patriarcat s'appuie sur un phénomène qui avait été condamné au XIXe siècle par le patriarcat avec le terme d'ethnophilétisme. Mais vous voyez, donc je pense qu'il faut se rendre compte de l'importance géopolitique au-delà de intrigues. Il faut se rendre compte que ce qui se joue, en fait, ce sont les grands équilibres géopolitiques. Est-ce que la Russie va réussir à reconstituer un empire?
Oui, et puis il faut ajouter tout de même, dans cette dimension géopolitique, et ce n'est pas faire offense au patriarcat œcuménique de Constantinople que de le souligner, c'est que le patriarcat qui a beaucoup perdu au XXe siècle et qui a failli effectivement disparaître, puisque les Turcs ont chassé les Grecs, etc. Ouais. Et ce patriarcat s'est refait en quelque sorte une santé en absorbant toutes les diasporas grecques à travers le monde, dont la diaspora grecque aux États-Unis, qui est en fait un puissant lobby politique, qui était très engagé, par exemple, dans le Parti démocrate, auprès de Martin Luther King, l'archevêque Yakovos, qui était le primat d'Amérique.
Il y a eu d'ailleurs un candidat à la présidence des États-Unis d'origine grecque,
Doukakis, etc. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'aussi le patriarcat aujourd'hui, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons de centre de gravité de son pouvoir financier et politique, le patriarcat a endossé non seulement l'Union européenne, question importante pour l'Ukraine, mais a endossé aussi, de manière plus générale, la politique d'endiguement de la Russie que prône Washington. Washington qui est aussi très active en Ukraine, il faut le dire. Donc là, on voit aussi que la division actuelle du monde affecte aussi le monde orthodoxe. Et si on peut avoir un regret, c'est que le monde orthodoxe n'a pas en ce moment les ressources, finalement, pour échapper peut-être à une double captation.
Et non, puisqu'on pose la question de la diaspora, c'est intéressant de voir que le patriarcat de Moscou contre-attaque en créant deux exarchats, c'est-à-dire en s'immisant dans les affaires de la diaspora orthodoxe qui normalement
alors il faut nous expliquer parce que moi quand vous m'avez parlé de ça au téléphone déjà pour préparer cette émission, j'étais regardé ce que voulait dire exarchat.
Exarchat c'est très
donc
important.
Donc expliquez-nous. Exarchat c'est donc
je pense que Jean-François peut l'expliquer mieux que moi.
Un exarchat c'est en fait une représentation dans un territoire qui ne nous appartient pas et qui doit devenir le vôtre. Et l'évêque que vous mettez en place, il représente immédiatement le patriarche. C'est donc en quelque sorte une situation, si vous voulez, de mission qui doit devenir exponentielle.
Et il y en a un à Paris.
Il y en avait un autre. Le patriarche Bartholomé a décidé il y a un mois, de manière tout à fait inopinée, de dissoudre l'exarchat des églises russes
qui était sous lui. Donc, mais là, voilà. Je crois qu'on a perdu nos auditeurs.
Non, on reprend le fil.
Il a décidé de dissoudre l'exarchat des églises russes en Europe occidentale, qui existait depuis 1931. L'archevêque de cet exarchat a son siège à Paris, dans la cathédrale de la rue Daru. Cet archevêque, il est allié à Istanbul et il a appris
Constantinople, il y a une fameuse chanson.
Et il a appris
en fait
que son archevêché n'existait plus et que les paroisses russes de son ex-exarchat seraient désormais rattachées aux métropoles grecques de chaque pays de l'Europe occidentale.
Alors, c'était les Russes qui étaient hostiles à Moscou dans l'immigration.
Voilà, et qui
n'ont jamais voulu rejoindre Moscou. Ils s'étaient mis sous Constantinople. Constantinople leur a dit d'un coup, juste après l'affaire d'Ukraine, qu'il n'existait plus. Moscou? Mais ils ont dit, nous on fait un exarchat. Et comme l'exarque en plus de Constantinople s'appelle Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un nouvel exarque qui s'appelle Jean. Donc vous voyez, on est dans la symétrie. des diplomaties ecclésiastiques qui sont tout à fait redoutables. Kirill et Bartholomé sont deux hommes très intelligents qui ont été formés pour le pouvoir. Et je crois que c'est aussi une relation extrêmement dure entre deux hommes très capables et qui ont une vue planétaire.
Précisément, on a bien compris qu'il s'agit d'un duel entre le patriarche Kirill de Moscou et le patriarche œcuménique qui est à Constantinople et qui s'appelle Bartholomé, mon cher Éric Scholl. Vous dirigez Courrier International et vous avez trouvé dans la presse internationale de quoi nourrir un portrait savoureux de ces deux dignitaires de l'Église orthodoxe.
Avec Kirill, né en 1946, originaire de Leningrad, il a été formé à l'école soviétique et lorsqu'il prend le trône de Moscou à l'âge de 72 ans, il incarne une nouvelle génération, se souvient le Guardian, il parle trois langues, il est ouvert à l'étranger, il pratique le ski et la plongée sous-marine et surtout, rapporte le quotidien britannique, il a animé un programme télévisé religieux. Alors, moderne, le patriarche de Moscou, c'est l'image qu'il veut donner lorsqu'il succède, le 1er février 2009, à Alexis II. Pourtant, des rumeurs circulent sur lui, par exemple ses liens avec le KGB, son ascension météorite à l'époque soviétique paraît improbable sans une telle coopération, assure le Guardian. Des rumeurs auxquelles s'ajoutent des soupçons, comme lorsqu'on voit par exemple apparaître le patriarche russe à plusieurs reprises avec des montres de luxe au poignet, montres d'ailleurs qui disparaissent sur le site internet du patriarcat, s'amuse le New York Times. Mais surtout celui qui passait hier pour un moderne se transforme en ultra-conservateur, un proche du régime de Poutine, qu'il a qualifié un jour de miracle divin. Tous les deux sont obsédés par la grandeur russe et partagent la même vision de ce qu'on appelle le monde russe. L'éditorialiste grec Nikos Konstantaras, que le patriarche s'affiche, je cite, comme le compas éthique de son pays, s'embarquant dans une campagne de moralité publique, prônant l'éducation religieuse dans les écoles publiques et s'opposant à l'avortement et à l'égalité des droits pour les homosexuels. Sur le plan extérieur, Kirill perçoit l'Église russe comme un instrument d'influence. Comme l'écrit le New York Times, Moscou ne contrôle plus depuis longtemps les morceaux de l'Empire comme l'Ukraine ou le Bélarus, mais la domination de l'Église orthodoxe russe a conforté la revendication de Poutine qu'il s'agissait d'un peuple, d'une église et d'une culture. Tous appartiennent au monde russe, un concept mis en avant autant par le Kremlin que par le patriarche Kirill.
Et face à Kirill, il y a évidemment le spectaculaire patriarche œcuménique Bartholomée au Fanar à Constantinople.
Oui, élu en 1991 archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome et patriarche œcuménique. C'est lui, un grec de nationalité turque, âgé aujourd'hui de 78 ans, c'est-à-dire quand même plus jeune que Philarète dont on parlait tout à l'heure, qui lui va avoir 90 ans ce mois-ci. Et donc, c'est lui le vrai patron des orthodoxes, car il est le premier parmi les égaux, c'est-à-dire qu'il exerce une primauté historique et spirituelle sur les autres patriarches. Bartholomée est une brillante figure de la spiritualité. Il est passé par les séminaires à Rome, en Suisse, à Munich. Il entretient de bons rapports avec le Vatican et en particulier avec le dernier pape, François, on le dit moderne. La presse le surnomme le patriarche vert pour son engagement depuis longtemps en faveur de l'environnement. Mais ce qui le préoccupe le plus, eh bien, c'est d'assurer cette fonction à la tête du trône œcuménique sur l'ensemble des églises orthodoxes. Or, raconte l'éditorialiste grec Nikos Kostandaras, Bartholomée considère depuis longtemps que l'église russe essaye de saper son autorité, une autorité qu'il a tenté de préserver en 2016, on en parlait il y a un instant en organisant un concile panorthodoxe en Crète, mais les Russes ont refusé d'y participer et on a atteint un point de non-retour, analyse de son côté le journal ukrainien Ukrainska Pravda, dès lors le divorce devenait inévitable.
Donc un divorce qui a été en quelque sorte symbolisé, cristallisé, affiché dimanche dernier avec la proclamation de l'autocéphalie d'une église orthodoxe à Kiev.
Oui, savoir maintenant qui va sortir victorieux du bras de fer entre ces deux personnages, c'est encore un petit peu tôt. Vous savez, Bartholomée, quand on lui demande s'il craint les répercussions de ce schisme au sein de l'église orthodoxe, a l'habitude de répondre « je ne crains que Dieu ». En réalité, il y a d'un côté Kirill qui apparaît comme le juge de New York Times, comme le grand perdant de l'affaire. Son bras de fer avec Bartholomée a conduit l'église russe à l'isolation complète, juge en tout cas le journal. C'est vrai, mais l'église russe, on l'a dit tout à l'heure, est très puissante, elle est riche, elle compte plus de 120 millions de croyants, elle bénéficie aussi d'appui politique. Le patriarche Bartholomée dispose lui aussi d'appui, notamment, on l'a dit aussi, du côté des États-Unis. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas fini de voir les conséquences de ce divorce. Que va devenir, par exemple, le mont Athos, considéré comme un joyau du patriarcat œcuménique. De nombreux moines de cette communauté monastique du nord de la Grèce ont des tendances pro-russes, prévient par exemple Nikos Kostandaras. Longtemps larvée, cette guerre entre les deux patriarches est cette fois-ci en tout cas bel et bien déclarée.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Okrent.
Georges Prevelakis, je vous ai vu tiquer lorsque Eric Scholl a fait allusion au mont Athos. Le mont Athos, si je ne m'abuse, comme les îles grecques du Dodécanèse et Patmos, sont sous la juridiction de Constantinople, parce que, et c'est l'une bizarrerie de plus, si je peux me permettre, de ces affaires orthodoxes en Grèce, c'est que le territoire de la Grèce d'origine n'incluait pas ces territoires-là, en quelque sorte. Oui, et donc, le mont Athos, pour rester là-dessus, il y a quand même beaucoup d'argent russe aujourd'hui au mont Athos. Vladimir Poutine y est allé deux fois. Enfin, il a signalé fortement son intérêt pour ce centre spirituel de l'orthodoxie.
Oui, toujours. Les Russes, il y a toujours, enfin, les Russes impériales aussi, ont toujours essayé d'être présentes au mont Athos, en grande partie parce que c'est un lieu symbolique, d'un très grand symbolisme. D'ailleurs, bon, je parlais aussi de Paris, je tiens quand même à dire que les lieux symboliques sont extrêmement importants dans ces confrontations géopolitiques. Je pensais à la cathédrale de la Sainte Trinité, c'est-à-dire la grande réussite quand même de la politique russe, d'ériger un monument très visible en plein centre de Paris.
Qui va être
la base d'opération de l'exarchat qui vient d'être créé. Alors donc, il y a une lutte pour les symboles.
Et pardon, cette cathédrale à Paris, qui est sur l'axe géographique
Oui, oui, qui est sûr. C'est-à-dire, de l'autre côté de la Seine, il y a l'église, il y a la métropole Saint-Stéphane, qui est le siège du métropolite qui représente les patriarcats d'Emmanuel, Monseigneur Emmanuel, qui est à la fois, bien sûr, métropolite de France, archevêque de France.
Donc mais ça, c'est Moscou.
Ça, c'est
Constantinople.
Je vous rappelle que
la cathédrale de Moscou face à la cathédrale de Constantinople à Paris.
Monseigneur Emmanuel était le représentant du patriarcat. D'accord. Dans l'affaire de l'Ukraine.
Les Russes rivent gauche et
les Russes rivent droite.
Donc il y a aussi une lutte pour les symboles qui est très importante. Mais pour revenir au Montetox, je pense que ça ne risque rien parce que il est garanti. Il est sous la protection de l'État grec. Et en fait, s'il y a divorce entre Moscou et Constantinople, je pense que c'est plutôt une diminution de l'influence de la Russie parce qu'on aura moins de facilité pour fonctionner dans le monde.
Alors, expliquez-nous, professeur Prevelakis, ce qui vient de se passer en Grèce. Parce qu'on sait à quel point, et vous nous l'expliquiez tout à l'heure, la religion participe de l'identité grecque. Et d'ailleurs, je crois que jusqu'à une époque récente, beaucoup de Grecs se disaient d'abord orthodoxes avant de se dire grec, de nationalité grecque. Et jusqu'à une époque récente aussi, il était obligatoire, je crois, d'avoir sa religion sur les papiers d'identité. Oui. Ça a été d'ailleurs l'une des crispations entre le pouvoir politique de l'époque et l'Église grecque. Et on a vu le premier ministre grec, donc Tsipras, qui lui est laïque, il avait d'ailleurs refusé de prêter serment sur la Bible quand il a pris ses fonctions, et il a voulu il y a quelques semaines, rompre en quelque sorte les liens entre l'Église et l'État.
Alors nous avons la grande politique menée par Bartholomée et la toute petite politique menée par Tsipras. Non, cette affaire est une affaire sans grande importance. C'est une intrigue politicienne. Il suffit de vous dire qu'une des réformes de ce qui est prévu dans cette fameuse grande réforme, c'est de déplacer les clergés, c'est-à-dire de leur enlever les statuts de fonctionnaires en continuant à les payer afin de pouvoir annoncer qu'on va embaucher 10 000 personnes à la place de ces pop. C'est-à-dire on est tout à fait dans ce genre de marchandage avant les élections, on promet.
Donc, voilà. Alors,
Porochenko et Tsipras, même combat. C'est ça. Le truc.
Mais, oui, enfin, sinon.
Il y en a un qui se fait faire une église nationale et l'autre qui tient les promesses face à Bruxelles, mais
bien sûr, s'est présenté comme un homme de gauche, mais enfin, il a suivi une politique qui est plus à droite que la droite, a besoin d'une certaine manière de dire voilà moi je vais essayer dans d'autres domaines d'appliquer un programme de gauche donc la séparation avec l'Église mais en même temps il est très peur de l'influence du clergé donc il envoie constamment des messages contradictoires.
Mais néanmoins l'archevêque de Grèce Hieronymos était d'accord avec Tsipras semble-t-il
oui.
et le même Hieronymos lui il a été contredit par
oui,
non,
mais il est complètement
ses propres...
oui bien sûr il y a pas mais je pense
ses
que
ses propres subalternes
subordonnés. Vous savez nous sommes en Grèce dans une période où Syriza voit
donc le parti de Tsipras.
Le parti de Tsipras voit qu'ils vont perdre les élections.
Qui ont lieu cette année.
Oui, on ne sait pas exactement. Ou plus tard, en automne prochain. Et donc, ils tentent plusieurs opérations qui, en général, échouent lamentablement et qui se tournent contre eux. Donc, ça aussi, ça fait partie de
donc,
ces
ça veut
opérations.
Dire que l'Église grecque reste une Église de quelques 10 000 popes payés par l'État
oui.
grec, avec, il faut bien le dire, des privilèges fiscaux et
oui,
fonciers.
Non, c'est encore une fois, ça, c'est un débat. Vous savez, l'Église s'est trouvée avec un très grand patrimoine après la création de l'État grec, une grande partie de ce patrimoine a été cédée à l'État. Donc,
au peuple.
Oui.
a été redistribué.
Et aussi redistribué, mais aussi à l'État. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu des accords, différents accords, et donc l'État a donné des garanties pour le financement de l'Église en échange de ces patrimoines.
Et l'Église joue un rôle évidemment considérable dans la crise économique qui continue d'étrangler une bonne partie de la
fiscalité, parce que aussi pendant la crise, les gens disaient pourquoi est-ce que l'Église ne paye pas. Moi, je répondais à ça que l'Église donne, fait une œuvre philanthropique, donc donne de l'argent aux pauvres. Vous voulez priver ces pauvres de cet argent pour passer l'argent en un État, à une bureaucratie qui est corrompue.
Il faut dire que la Constitution grecque exonère l'Église et les armateurs, ce qui est encore plus paradoxal,
oui, les armateurs,
de toute contribution fiscale.
Ce sont les armateurs fonctionnent dans un domaine international, dans la compétition. Donc, si la fiscalité dépasse un certain degré, soit ils vont partir, ce qui d'ailleurs
ils sont déjà quand même beaucoup entre Londres et...
Oui. Soit, autrement, ils vont faire faillite.
Jean-François Colussi.
Oui, moi, je voudrais juste un mot, parce que tout ça peut donner une triste idée, quand même, de ce monde orthodoxe. Il faut quand même savoir que l'orthodoxie est, avec le bouddhisme, la seule religion qui soit sortie du XXe siècle, avec moins de territoire dans l'absolu, et moins de population au prorata de l'expansion démographique, qu'elle n'était entrée, cette orthodoxie, dans le XXe siècle. Les pertes ont été considérables. L'Église russe a donné plus de martyrs en quelques décennies que toutes les églises chrétiennes réunies en 20 siècles. Les Grecs, il n'y en a plus en Asie mineure. Il y a eu, il faut s'en souvenir aussi, le massacre des Serbes à côté de celui des Juifs et des Tziganes par les Oustachis. C'est une histoire terrible. Le problème qu'on a, c'est que cette histoire terrible, l'Église russe, qui est héritière au fond de ce grand martyr sous le totalitarisme aujourd'hui, au lieu de se tourner vers cette mémoire et d'y trouver une inspiration pour répondre de manière plus métaphysique peut-être aux questions de l'homme et de la femme d'aujourd'hui, a finalement couru pour renouer un pacte avec l'État. Et le geste important de Bartholomée, c'est peut-être celui-là, c'est de dire stop à une orthodoxie qui en quelque sorte rejouerait les drames du christianisme en Europe au XIXe siècle. Vous voyez, l'anti-darwinisme, l'anti-freudisme, le rêve du sabre et du goupillon, etc. Et de dire au contraire qu'il faudrait peut-être se projeter dans la postmodernité, parce que cette orthodoxie, elle est en quelque sorte postmoderne. Vous voyez, on a du mal à comprendre où elle est, on a du mal à comprendre si elle est structurée.
On comprend en tout cas une
chose. Quelle hiérarchie elle a, elle permet beaucoup de liberté, vous voyez, puisque même l'archevêque d'Athènes, finalement, se fait désavouer par son clergé, etc. Elle est très postmoderne parce qu'elle est en réseau, parce qu'elle fonctionne symboliquement sur une idée de communion qui, justement, n'est pas hiérarchisée, n'est pas pyramidale. Alors, parfois, avec des ratés monstrueux, comme on voit en ce moment. Mais c'est peut-être grâce à ces ratés que finalement le rêve de Bartholomée se réalisera, rêve qu'a empêché Cyril en 2016, qui était de remettre un peu d'ordre dans tout ça, et au sens propre, puisqu'on parle d'église orientale, d'église d'Orient, de réorienter l'orthodoxie, et d'un tout petit peu aussi la désoccidentaliser, parce que toutes ces histoires de nationalisme viennent quand même du grand romantisme européen,
et du traité de Westphalie, et je crois qu'on a besoin d'une orthodoxie qui retrouve son Orient.
Et pour ça, voilà. Alors évidemment, il va y avoir des problèmes en Ukraine. Évidemment que Porochenko va déclarer son église, maintenant qu'il l'a, église d'État, et qu'il va essayer de foutre dehors l'autre église, celle de Moscou. Évidemment qu'il va y avoir des batailles pour les monuments. Évidemment que Vladimir Poutine, on a vu comment il pouvait utiliser le Donbass. Mais là, il peut utiliser des frictions et des oppositions très violentes à Kiev même. C'est encore plus loin. Évidemment que tout le monde travaille à ça. Évidemment que Washington et Moscou jouent leur rôle. Évidemment, etc., etc., etc. Et en même temps, il y a aussi ce grand malheur, c'est qu'on comprend que les Ukrainiens n'en peuvent plus de ces Russes, n'est-ce pas ? Qui depuis des siècles leur tapotent sur l'épaule en leur disant « tu es mon petit frère ». Vous savez, c'est à la fin, le petit frère, il n'en peut plus, il a envie d'exister, c'est normal.
Mais avec cette dimension, Jean-François Colussi-Simon, que c'est bien Kiev qui est le foyer...
Qui est le foyer du christianisme byzantin slave.
Voilà.
Mais pour revenir là-dessus, le problème qu'on a, c'est difficile
en fait à accepter, je pense, pour l'Église russe, parce que précisément, le berceau de l'orthodoxie russe, il est en Ukraine. Je veux dire, la christianisation de la Rousse qui est Vienne, elle a commencé à Kiev, dans les eaux du Dniepr, en 988. Donc, moi, ce que je voudrais dire pour conclure, peut-être, c'est que, effectivement, c'est un revers important pour le Kremlin. C'est une déperdition de pouvoir. Symboliquement, l'autocéphalie de l'Ukraine, elle est vraiment, elle revêt une importance capitale, surtout pour les Ukrainiens, parce qu'ils acquièrent ce nouvel attribut finalement de l'indépendance et qu'ils poursuivent la formation de leur État-nation. Mais ce sur quoi je voudrais insister en conclusion, c'est que, à bien y regarder, la situation, moi, elle me semble beaucoup plus contrastée. Et en réalité, à mon avis, l'Église russe, comme le Kremlin, pourrait quelque part tirer bénéfice de cette situation pour au moins trois raisons. La première, tout d'abord, je le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, l'Église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou, elle reste dans le giron russe. Et donc l'Église orthodoxe russe n'a pas, pour l'instant en tout cas, perdu de fidèles. Deuxièmement, cette affaire, elle permet quand même au patriarcat de Moscou de renforcer son influence auprès des autres églises orthodoxes autocéphales qui ne partagent pas forcément la conception pentarchique de la primauté de Constantinople que le patriarche Bartholomée défend actuellement. Et ça me semble important pour l'avenir. Et je veux dire, ce changement de juridiction, ça suscite des inquiétudes parce qu'il y a la crainte du précédent.
Et encore une fois, il faut rappeler que le patriarche œcuménique n'est pas l'équivalent du pape dans le monde catholique. Oui.
Et troisième point, et ça c'est vraiment crucial, je pense que cette situation risque de générer des tensions supplémentaires en Ukraine et de creuser un peu plus les divisions territoriales, notamment avec le Donbass.
Et que donc finalement, qui est cette région à l'est où une guerre larvée avec d'ailleurs des représentants autoproclamés qui sont évidemment téléguidés par Moscou.
Et cela sert la stratégie de déstabilisation du Kremlin en Ukraine.
Georges Prevelakis, en guise, on approche de la conclusion de cette émission. Il faut dire que l'on comprend pourquoi on a parlé de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, on aurait pu parler de Byzance, parce que les querelles byzantines, enfin l'étymologie même, je crois qu'on comprend mieux, un peu mieux ce matin, l'étymologie de ce terme.
Oui, mais il faut, je pense, se rendre compte pourquoi cette question est importante au-delà du monde orthodoxe et de nos querelles, etc. Et je dirais il y a deux thèmes principaux, pour aller vite. Le premier, c'est bien sûr les grands équilibres géopolitiques mondiaux. C'est-à-dire, je pense que pour Moscou, la religion remplace l'idéologie communiste, donc c'est fondamental dans son projet impérial. La deuxième raison, c'est plus compliqué, c'est que, je reprends l'idée de Jean-François, que je pense on a besoin de la souligner, de la développer, c'est que nous avons deux modèles différents d'organisation. L'un, c'est le modèle pyramidal, c'est le modèle de Moscou, c'est le modèle occidental, et l'autre, c'est le modèle oriental en réseau qui a été en contradiction avec la modernité. Maintenant qu'on entre en post-modernité, nous avons besoin de ces modèles. Et le patriarcat de Constantinople est une sorte de, comment dire, à préserver ces modèles et peut fonctionner comme guide pour l'Occident dans ce sens. C'est essentiel si l'Occident veut nouer des liens avec le reste de l'humanité. Donc, pour sortir de l'eurocentrisme.
Eh bien, merci à vous pour cette exploration passionnante dans les méandres de l'orthodoxie. Merci à Georges Prevelakis. Vous avez notamment publié « Qui sont les Grecs ? Une identité en crise » aux éditions CNRS en 2017. Jean-François Colosimo, vous avez publié « Aveuglement, religion, guerre, civilisation » aux éditions du CERF, que vous dirigez d'ailleurs. Et la malédiction des chrétiens d'Orient aux éditions Plurielles en 2018. Céline Maranger, vous avez dirigé un numéro de la revue Les Champs de Mars en 2017 et les conséquences de la crise ukrainienne en Europe aux presses de Sciences Po. Je remercie aussi bien sûr Constantin Sigoff qui vient de publier un papier très intéressant sur l'Église orthodoxe en Ukraine pour la revue Études. Et je remercie vivement Jean Radvani, professeur à l'INALCO, qui a publié plusieurs ouvrages sur la Russie. Le dernier, La Russie entre peur et défi, chez Armand Collin. Merci à Eric Scholl. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Dali Yaha. Meryl Moneghetti a préparé cette émission comme chaque semaine. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.